Vous écoutez
RMC. Jusqu'à 1h, c'est RMC Poker Show.
Jérémy Servin et Mandy.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le RMC Poker Show. Comme tous les dimanches de minuit à 1h, on est ensemble pour parler poker, pour parler de ce jeu qu'on aime tant, de cette passion si dévorante parfois, mais vraiment qu'on aime tant et qui nous anime chaque semaine, Mundir, moi et nos invités. Vous n'aurez pas reconnu la voix de Daniel Riolo, c'est normal, vous m'avez même entendu dans le jingle. Il est à Marrakech en train de raser les tables de cash game du SA10, ouais. En train de se faire cramer les fesses au soleil.
Plutôt les brochettes.
Et ouais. C'est tout ce qu'il aime et on lui souhaite beaucoup de bonheur pendant ses vacances. En attendant, à mes côtés, notre ami Mundir qui est avec nous.
Salut, salut patron. C'est la deuxième fois, patron, que tu que t'es au micro.
Ouais, deuxième ou troisième.
Deuxième, troisième, j'étais malade moi quand je t'ai pas vu. Mais
attends, mais je t'ai pas demandé, tu rentres de ton voyage de noces, c'était comment?
Ah bah c'est génial. C'était génial à Abu Dhabi.
Tant mieux.
Ah bah, exceptionnel.
Léger.
Des sushis à droite, des côtelettes à gauche, extrêmement léger. J'ai dû prendre 5 kilos, mais c'était très bien. Les enfants n'étaient pas là. On a même joué un petit popo. J'ai même joué un petit popo sur internet. Ça m'a fait plaisir.
Mais oui, tu as joué. Tu sais que la dernière fois que j'ai animé cette émission, 3 jours après, tu partais au Triton.
Exactement. C'est exactement ça.
Mais là, cette semaine, tu as joué un tournoi qui n'est pas vraiment les Tritons, quoi. Tu as joué au Circus.
Non, c'est les Trontis.
Les Trontis. Et ça s'est passé comment?
Mais écoute, on était au Circus et puis c'était sympa. On a fait le Apo. Mm-hmm. Au 500, c'est très très bien. Pas mal de monde.
Rien de plus à dire quoi, pas de place payée.
Non, pas de place payée. Tu sais, parfois le poker c'est une longue science.
Ça c'est vrai.
En tout cas, la voix de Daniel a beaucoup changé.
Ah ouais, bon, il est un peu muet. Bon, autour de la table, ça me fait tout drôle. Deuxième fois en 2 semaines qu'il est en studio, Pierre Calamusa.
Ah ouais.
Donc, salut Pierrot.
Salut Jérémy, salut Jacques.
Salut
tout le monde, salut Benjo.
Salut.
Quel plaisir d'être avec vous.
J'ai pas encore présenté Benjo, effectivement. Pierre, tu nous disais la semaine dernière en studio que tu allais gagner le PT pour victoire. Force est de constater que si t'es là avec nous, tu n'as pas gagné le PT.
Alors ça aurait pu.
C'est vrai.
C'est terminé déjà.
Ça s'est pas bien passé, mais je t'ai entendu dire
si,
quand même
si, que... j'ai quand même fait l'argent.
Oui, t'as fait l'argent, ça a payé les couches.
Ça a payé un petit peu des couches, j'ai pris 12 000 euros, donc c'était pas si mal. Et j'ai plein de mains à vous raconter qui sont sympas, donc voilà.
C'est super. Avec nous également en studio, Jacques Guénis.
Ah ouais.
C'est l'une des grandes gueules du circuit. Frérot. Il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. Si.
Non, si. C'est une figure emblématique du circuit. Ouais, pas une grande gueule, une figure emblématique.
Bon, t'es venu passer un coup de gueule en tout cas.
Non, pas un coup de gueule, une réflexion. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Une petite réflexion sur les tournois. Moi qui joue depuis maintenant un certain temps au tournoi, puisque je fais partie, ça va vite, d'un peu de l'ancienne génération. D'ailleurs, ce que je me disais en venant, c'est qu'il y a pas mal de joueurs avec qui j'ai débuté, qui sont plus forcément là aujourd'hui.
Ah bah bon, ouais.
Un vrai renouvellement. Et il y a eu un changement, une mutation assez importante dans les tournois. Et c'est vrai que c'est un sujet qui... je trouve intéressant d'aborder.
Bon, on en parlera tout à l'heure. Effectivement, tu veux parler de ces tournois illimités ou ribailles illimités qui, pour toi, faussent un petit peu le jeu. On en reparlera. Au sommaire, on va rigoler, bien sûr. On va entendre de belles anecdotes de jeu avec le coup d'une vie. On va faire plein de choses. Mais avant, direction le Palais des Congrès, forcément, c'était la chose de la semaine. C'était l'actu chaude. On ne pouvait pas commencer autrement l'émission. Le PT qui a débuté le 14 février et qui s'est terminé aujourd'hui. On est avec Benjo, rédacteur en chef poker à Wina. Salut, mon Benjo.
Salut, Jérémy. Salut tout le monde.
Salut.
Bon Benjo, t'as passé de nombreuses heures avec tes équipes à suivre le festival. Gros succès cette semaine parisienne.
Ouais, tout a été. Tout était vraiment très fluide, très bien organisé. On a eu du beau poker, des beaux tournois, un très très beau vainqueur final. Ouais, il y a juste une déception pour nous dans l'ensemble. Ce qu'on va retenir quand même, c'est les contre-perfs des joueurs tricolores qui étaient évidemment très nombreux. Au final, les résultats sont largement en dessous de ce qu'on pouvait espérer, si ce n'est pour un jeune professionnel qui a un peu sauvé l'honneur en remportant le tournoi le plus cher, le Super High Roller. Je veux parler de Thomas Santerne.
Ah ouais, on va en parler, c'est incroyable. Bon, avant, on peut revenir au main event, on en parlait. Ouais. La ATF, elle a démarré à midi, elle s'est terminée vers 17h30. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous, qui gagne?
Bien, c'est la victoire du vieux singe à qui on n'apprend pas à faire la grimace. C'est Barney Botman qui a pris le contrôle de la partie à 3 left. On a eu les 3 premiers sortants assez rapidement, en 1 heure. Et ensuite, c'était assez équilibré à 3 left. Il a pris le contrôle, il a eu des bonnes mains. Il a fait quelques petits coups à l'ancienne comme on les aime. Et puis, il est devenu aujourd'hui officiellement d'ailleurs le vainqueur main event, le plus âgé sur le PT. Il a 68 ans, Barney, dont 30 ans passés à table. C'est quelqu'un qui connaît bien Paris. À l'époque, quand l'Aviation Club de France a ouvert le poker en 95, il a été l'un des premiers étrangers qui venait régulièrement et qui rasait les joueurs parisiens. C'est très, 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 très sympa de le voir triompher aujourd'hui sur ce très gros main event.
Il a réglé l'affaire très rapidement, mais je crois que, je sais pas, en demi-finale, il y a eu un call hallucinant. Je sais pas si t'as entendu parler.
Ouais, contre Eric, le joueur québécois.
Et il y a les Notre Dame.
Ouais, c'est ça, voilà. Avec juste top pair, avec un kicker pas ouf. Et le Québécois envoie 3 barrels all-in. Il a le tirage flush qu'il a raté. Et il est, Eric, le joueur québécois, n'en revient pas. Donc il y a eu un dialogue très très drôle. Il fait waouh. Voilà, ils disent en anglais, tu as payé pour ta tournament life. Et Barney lui répond, ouais, bah tu sais, c'est juste ma tournament life, c'est pas ma vraie vie, quoi. C'est juste,
c'est
je risque pas ma vie non plus.
Donc frité avec
Fez,
avec Fez. Il a dit, enfin, je l'ai eu, ça tant que.
Un truc que j'avais jamais vu. Il a quand même utilisé l'intégralité de ses time bank parce qu'il ne voulait plus jouer.
Oui.
Une fois qu'il a perdu ce coup, il avait donc je crois 10 ou 12 time bank.
Il restait 15 jeté, minutes à jouer. Ouais.
Et donc, il a gâché à peu près 8 ou 9 minutes de jeu. Il s'est retrouvé quand même de grosses blindes derrière. Mais j'avais jamais vu ça.
Il a fini son tournoi en tilt de mutant.
Le pauvre Eric. Et je crois qu'il a eu du coup une orbite de pénalité pour le jour 5. Le jour 4. Il s'est fait avoir avec deux as contre 6.
Il a dit, je t'ai bien eu.
Ouais, il a dit, enfin, je t'ai eu, tes jetons, etc. T'as pas arrêté d'avoir la main sur moi toute la journée. Et donc, ça a créé. Il a même, Eric, il disait même, tu m'insultes pas. Donc, c'est vraiment monté dans les tours.
Benjo, il y a une autre main complètement folle que j'ai vue sur le main event là tout à l'heure. Je crois que c'était hier. 2-10. Qui font brelan et deux valets en face qui font brelan également. Ouais. Et le mec avec 2-10 a réussi à faire passer deux valets en face.
Ouais, et c'est David Kaufmann, jeune pro allemand, enfin jeune 33 ans, qui se rendait pas compte qu'il était en train de bluffer là, avec un brelan. Il a réussi à faire coucher un brelan supérieur à Ami Barreur, un pro canadien.
Incroyable.
Ouais, c'est un coup, si le coup se passe différemment, il n'est pas en deuxième place contre Barney Botman ce soir, ça c'est sûr.
Ok, bon, l'événement principal c'est bien, mais effectivement t'en parlais, il y a eu d'autres tournois au programme et je te propose qu'on débute par cette paire française qui est complètement dingue. Thomas Santerne, j'ai lu son histoire sur Wina, je crois qu'il y a 2 ans il jouait les tournois à 5 balles, là maintenant il joue des 25 et des 50K, il a gagné le Super High Roller à 50 000 pour, je sais pas, 900 000 euros,
ouais, sur un field voilà, d'une quarantaine de joueurs, un tournoi à 50 000 l'entrée, où forcément bah, le field, les joueurs en lice sont très 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 bons, donc c'est un peu la performance d'une vie. Et c'est drôle quoi, parce que c'est à la fois très surprenant, comme tu dis, il y a 2 ans il jouait des 5 euros, mais quand on observe bien son parcours, c'est pas si surprenant que ça quoi. On savait qu'il en était capable. Ce qui est le plus surprenant en fait, c'est la rapidité avec laquelle ça arrive. Voilà, il a eu de la chance au bon moment. Il a fait des gros sauts de bankroll. Et comme c'est quelqu'un d'ambitieux qui voilà voulait monter, il a eu le run good pour le faire. Et c'est une sorte de mélange de martingale et de talent pur.
Pierre, tu le connais, Thomas ?
Ouais, je le connais. Je l'ai joué pas mal online. Et en fait, c'est impressionnant parce que, en fait, il a empilé les perfs entre 50 au début. Tu vois, sur Instagram, c'est un peu des perfs à 30, 40, 50 000. Et d'un coup, en fait, il se qualifie pour un 10 000 $. Il le gagne. Et après, il a gagné en boucle, en fait, au fur et à mesure, un 10 000 $ quotidien sur un site online. Et un 10 000 $, pardon, hebdomadaire sur un site online. Il l'a gagné plein de fois d'affilée. Et tu vois, en fait, c'est 250 000. Et là, il arrive en live. Et pour un de ses premiers tournois, il gagne le 50 000. C'est dingue. Et franchement, bravo à lui parce que, comme tu l'as dit, Benjo, on n'a pas eu des très bons résultats, nous, les tricolores. Et il nous a sauvés.
Il a 23 ans, c'est ça ?
C'est un petit jeune. Après, voilà, c'est un style de jeu très agressif. J'ai même eu l'occasion de commenter une des étapes finales sur le 1000 euros des Winamax Series, sur lequel il est fait premier au deuxième. C'était un feu d'artifice. Il en foutait de partout. Et ça c'est vraiment beau à voir.
Mais c'est hallucinant. C'est un petit jeune. Il était en CAP chaudronnerie il y a encore 4 ans. Il était chez ses parents.
Il n'osait pas envoyer des marmites.
Maintenant, il peut racheter la maison de ses parents.
Ah ouais?
Non, mais ouais.
La chaudronnerie, carrément.
Non, mais c'est complètement. Non, mais il sera avec nous la semaine prochaine, je pense, parce qu'il faut qu'on en parle. C'est complètement fou, cette histoire. Et bravo à lui. Le high roller, il est fini, oui?
Non,
la table finale va bientôt débuter. On est sur un field assez random. Enfin, je veux pas dire que c'est des fiches ni rien, mais c'est pas les gros joueurs habituels. Ils ont un peu contre-performé. Puis les Français aussi. On est toujours sur le même thème de la contre-performance, que le meilleur joueur, c'est Cédric Schweiderle. Il a terminé 16e.
On n'avait pas Alex Réard.
Non, il a été éliminé en début de journée.
Non, il a fini. Ah oui.
Il y a pas mal on fait l'argent, mais finalement c'est pas ce que tu viens chercher sur ces groupes. Pas
évidemment. Alors 1 million à la win sur ce tournoi quand même.
C'est beau. Bon, il reste quoi en cours? Il y a encore des tournois en cours là, Benjo?
Bah, tu sais, c'est les petits tournois de la dernière chance. Hein, donc, bah,
des cagoulés.
Il y a ce High Roller et puis il y a les. Voilà, il y a un tournoi. Il y a un tournoi 5000 turbo pour ceux qui ont encore faim. Il y a un 25000 qui se termine. Et il y a aussi, des tournois aussi plus abordables pour les joueurs du dimanche. Il y a le 300 qui est assez turbo, qui rencontre toujours un beau succès. Il y a genre plus de 800 joueurs. Oui, il y a encore. On a terminé le main event, mais là, à l'heure où on enregistre, il y a encore énormément d'action dans la salle.
Ok, Benjo. Et oui, il faut jamais oublier. Moi, j'avais envie de parler de Jean-Noël Torel quand même.
Ah ben, moi, que j'ai croisé là-bas. Et effectivement, il était accompagné de son fidèle écuyer.
Ah ben oui.
Voilà, fidèle écuyer. Et puis je crois qu'il a fait une ITM, hein, c'est ça. Hein.
Mais il a fait trois ITM. C'est ça, Benjo. Hein.
Ouais, dont un podium avec Chidwick et.
Là, il fait deux troisième places.
Ouais. Ouais, voilà, sur les 25 000, là, c'est ça qui est génial maintenant avec le PT. Il y a des high rollers en fait quasiment tous les jours des nouveaux high rollers qui démarrent, donc c'est assez agréable à suivre.
Mais est-ce que tu trouves que ça a encore la même saveur? D'ailleurs, c'est ce que je me disais tout à l'heure, en envoyant tous les jours.
Ouais, peut-être un peu moins. Il y a pas le côté exceptionnel, quoi. Tu vas pas. Tu vois, c'est les mêmes. En fait, c'est le même groupe de joueurs qui s'inscrivent à ce tournoi-là pendant tout leur séjour, quoi. Mm. Tu vois. Donc pour moi, le tournoi qui sort du lot, c'est celui de Santerne, parce que le buy-in est plus élevé. Et voilà, il y a un vrai truc. Il s'étale sur 3 jours.
Non, mais les autres, c'est un peu plus des. Le DK High Roller, je trouve, a plus de.
Il est très bien aussi.
En fait, les 25 000 c'est des turbos. Mmh. En fait, en gros, comme disait Benjo, c'est t'as ton home game avec tes potos et tu joues un peu tous les jours ton petit home game à 25 000 euros.
C'est ça, tu
les pros sont contents parce qu'il y a toujours 3-4 businessmen ou même plus qui sont là. Et après, voilà, mais c'est vrai que ça fausse un petit peu les statistiques. Après, effectivement, en termes de cash, ceux qui ont la chance de jouer ces tournois quotidiennement, forcément, on va avoir des add-on mobs qui sont complètement démesurés, quoi.
Benjo, si tu devais retenir une seule chose de cette EPT Paris, toi qui y as passé quasiment 10 jours, qu'est-ce que ce serait? C'était un vrai succès. Qu'est-ce que tu en retiens?
Une organisation très très fluide, des joueurs qui a priori semblent en majorité très 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 satisfaits. Puis le pouvoir d'attraction de Paris pour les joueurs étrangers, quoi. C'est limite c'est peut-être la seule bonne nouvelle de la contre-performance des Français, quoi. C'est qu'on risque pas de dégoûter les étrangers de revenir vu qu'ils savent qu'ils peuvent venir et puis raser à peu près tous les tournois. Donc Paris est une très belle ville pour jouer au poker et une vraie capitale du poker en Europe, quoi.
Paris, nouvelle place forte du jeu. Merci beaucoup Benjo d'avoir été avec nous. Tu viens de me faire une passe décisive vers Cédric Bio qui est également au Palais des Congrès. Merci beaucoup Benjo.
Je vous en prie. À bientôt.
Ciao mes amis. On enchaîne du coup, effectivement, on reste au même endroit. Un homme qui doit être heureux ce soir, c'est Cédric Bio, patron du live chez PokerStars. Salut Cédric.
Bonsoir tout le monde.
Monsieur le Président, bonjour.
Bon, la semaine dernière. La semaine dernière, Cédric.
Par contre, les gens jouent au ping-pong.
Ah oui, c'est clair, il y a des pongistes derrière. Ah oui, on avait vu ça.
Et là, il y a le championnat du monde de
c'est ça.
Ping-pong.
C'est
les frères Lebrun.
Non, c'était ce matin.
Les frères Lebrun, les frères Lebrun sont derrière.
Est-ce que la France a gagné?
Non, on a été éliminé en finale.
Arrête.
Ah, on a perdu contre la Chine, on n'est pas passé loin.
Les frères Lebrun, là.
Une victoire des Lebrun.
Ils ont pas
défoncé. Ouais, mais attends, là, c'était niveau compte numéro 1, 2, 3 là-bas.
Ouais, c'était un peu compliqué,
Quelqu'un te passe, pardon. On va te manger ton cul.
Tous les frères de Pierre. Cédric, pardonne-nous. La semaine dernière, tu disais qu'après une édition 2023 en demi-teinte niveau orga, t'avais tout fait pour contenter tes boss lors de l'édition 2024. Tout laisse à penser que tu devrais garder ton job.
En fait, moi, j'aime bien. Que mes boss soient heureux, mais surtout que les joueurs soient heureux. Donc je pense que la mission est remplie pour cette année.
Bon, et trêve de plaisanterie, quel est le bilan que tu tires là après 10 jours de festival?
Un bilan extrêmement positif. Vous l'avez dit plus tôt, l'année dernière, il y a eu quelques couacs au niveau de l'organisation. Il était extrêmement important pour nous de pas reproduire les mêmes erreurs. Donc je pense quasiment unanimement, tous les joueurs sont venus nous voir pour nous féliciter de l'organisation. Donc ça, c'est... Nous, on fait les tournois pour les joueurs, de toute façon. Il n'y a pas de secret.
Cédric, vraiment, vraiment bravo, parce que moi, je suis passé... Alors, moi, je n'ai pas fait le PT et tout ça, mais je suis juste passé où j'étais avec un ami, Ludovic Sultan. Et j'ai bien vu tout l'effectif et et toute la structure que vous avez mis en place. C'est vraiment quelque chose de beau, c'était très très fluide, il y avait de l'espace, les joueurs étaient ultra ravis. J'ai eu la chance, moi, de discuter avec l'une des responsables de Barrière qui s'occupait bien évidemment de toute la logistique, et j'ai croisé aussi notre chère Lucille qu'on salue. C'est vraiment réussi, bravo. On attendait vraiment à un moment qu'il n'y ait plus de retour, mais que ça soit de n'importe quel room ou autre, et que surtout les joueurs soient respectés, et surtout qu'ils soient dans les meilleures conditions. Bravo.
Exactement. Bah, je te remercie, Moundir. Voilà, de ta part, ça fait plaisir, mais tu l'as mentionné également, la collaboration avec le groupe Barrière, qui est extrêmement importante en France. Il y a beaucoup de points de régulation sur lesquels il faut être vigilant. L'organisation, il y a plus de 600 personnes dans le staff. C'est une énorme machine à faire tourner. Donc voilà, Barrière, PokerStars, tout le monde est extrêmement satisfait. Et je vais également en profiter pour mentionner notre directeur de tournoi, Toby Stone.
Bien sûr.
Également, la nuit dernière, il y avait les Awards du poker à Las Vegas.
Oh.
Et donc, le directeur de tournoi PokerStars, Toby Stone, a gagné le award du meilleur directeur de tournoi mondial. Ce qui contribue également à notre organisation, à tous ces processus qui sont extrêmement bien rodés depuis un certain nombre d'années. Et je pense que les joueurs le ressentent, en effet.
Cédric, on t'entend un petit peu loin. Si tu peux te rapprocher un petit peu de ton téléphone, si ça ne t'embête pas. Cédric, il y a un truc que je me demandais. Pour toi qui es français, l'étape parisienne représente quelque chose de très particulier pour toi ?
C'est très particulier. Ça fait 15 ans qu'on voulait faire un EPT à Paris. On pouvait pas pour des raisons réglementaires jusqu'à il y a quelques années. Donc évidemment, on l'a fait à Deauville pendant plus de 10 ans. Benjo, Moundir, tout le monde est venu à Deauville. On a fait des extrêmement beaux tournois à Deauville. Mais Paris, c'est évidemment beaucoup plus facile d'accès pour tous les joueurs internationaux. Et on pense que si on revient l'année prochaine, ce qui est 99% sûr, on pourrait avoir des chiffres encore meilleurs. Je pense que maintenant, bon, il y a peut-être un certain nombre de joueurs qui ne sont pas venus cette année à cause de ce qui s'est passé l'année dernière. Et je pense que là, tous les joueurs qui sont venus cette année, que ce soit français ou étrangers, vont sans doute passer le bon message à leurs amis. Et donc, on espère l'année prochaine faire des chiffres encore plus gros.
Mais ce qui est top aussi, Cédric, c'est que moi, quand je suis venu il y a à peu près deux jours, c'est énorme ce que vous avez fait en termes d'écosystème, de créer une forme de petit village. De petits villages, voire grands villages, avec les tournois. Les joueurs peuvent jouer au tennis de table. D'ailleurs, on entend des gens jouer au tennis de table. Il y a la boutique. Enfin, moi, c'était la première fois que je voyais la boutique PS, bien évidemment, bien placée. Il y avait aussi des jeux avec les slash codes. Enfin, je trouvais ça vraiment, c'est vraiment réussi. Alors que j'ai connu Deauville, bien évidemment, il n'y avait pas tout ça. Enfin, il y avait cette fluidité, parce que Deauville reste quand même emblématique. C'est beau, c'est le Normandie. Enfin, il y a un charme particulier qui est très différent de Paris, mais Paris devait avoir son EPT. Et c'est vrai que d'avoir fait cet écosystème de village, c'est vraiment top.
Et je pense que les joueurs aiment bien. En fait, on essaye de penser. Il y a énormément de tournois. Donc, quand un joueur se fait éliminer d'un tournoi, il a le choix. Soit il peut rejouer, sous réserve qu'il y ait des tournois avec des buy-in qui conviennent. Ou sinon, en fait, il va y avoir pas mal de temps où, en tant que joueur de poker, on bust, on se fait éliminer, on ne sait pas trop quoi faire. Donc, en effet, avoir quelques activités aux alentours, que ce soit des activités sportives, que ce soit des activités culturelles, touristiques ou autre chose, on essaye d'apporter tout ça un peu, toute cette panoplie d'activités aux joueurs en dehors du poker.
J'ai même une petite anecdote, c'est que tu sais, en fait, en gros, t'as un système un peu complexe en France avec la législation, c'est qu'en gros, si tu joues le premier jour et que tu le re-entry, après, tu peux faire tous les autres tournois du même, donc, par exemple, le FPS, qu'une seule entrée par jour, d'accord? Donc, si t'as joué le 1-1 et re-entry, après, c'est freeze out pour toi sur tous les autres decks. Bref. Il se trouve que je me prends un bad beat horrible en arrivant au FPS à genre midi et demi, et que du coup je me suis retrouvé à faire une après-midi cinéma dans le cinéma du Palais des Congrès en attendant de pouvoir rejouer à 18h ou à 19h le soir. Et donc je suis retrouvé avec un cinéma avec tous les bustos.
Ils sont allés aussi.
Qui attendaient à faire un film coréen d'auteur merdique. Et tous les joueurs de poker d'armée. Quand même, la séance était à 17 euros, s'il te plaît.
Non.
Ah ouais. UGC, je sais pas quoi.
Là, il faut en faire 10e. Cédric, la grande finale du Winamax Poker Tour, c'est dans quelques jours, Porte de Versailles. Je me demandais, est-ce qu'un lieu comme ça pourrait correspondre ou convenir à l'EPT pour que les records soient encore plus dingues dans les années à venir ou pas du tout?
Pas spécialement. Et là-dessus, nous, je pense que le Palais des Congrès, on a encore des possibilités de s'étendre. Si l'année prochaine, on veut rajouter une cinquantaine de tables, on a la place. Et pourquoi? En fait, c'est pas facile de trouver un lieu pour le péter. Nous, il faut absolument une capacité hôtelière. Donc, il y a évidemment le lieu où se passe le tournoi, il faut beaucoup de place. Donc là, le Palais des Congrès, ça convient, mais Porte de Versailles pourrait convenir également. Par contre, la clientèle EPT, les joueurs EPT français ou internationaux, on a toujours cette, on a besoin d'avoir 500, 600, voire 1000 chambres, 4 ou 5 étoiles à proximité du lieu. Chose qui est sans doute pas le cas du Winamax Poker Tour.
Je n'avais pas pensé à comparer. Ouais.
Mais non, c'est des contraintes qui ne sont pas faciles. Et à Paris, en fait, on a regardé pas mal d'endroits. On avait même regardé le Grand Palais, le Carrousel du Louvre, des endroits absolument magiques et majestueux. Mais la capacité hôtelière à proximité, c'est important, je dis bien à proximité. Ouais, bien sûr. Hein. Le joueur de poker ne veut pas prendre un taxi. Je dis le joueur de poker comme si c'était un cliché, mais. Il faut que ça soit à pied.
L'EPT Paris en 2025, j'ai l'impression que tu l'as dit, hein, c'est quasiment une évidence. Est-ce qu'il y a une autre ville où un EPT pourrait poser ses valises ou on les a jamais posées, où on les a jamais vues?
Il y a, j'allais dire Berlin, mais Berlin, on est déjà là à Berlin. Ah ouais. On regarde pour retourner à Berlin. Et après, il y a d'autres villes comme par exemple le Portugal. À voir si le Portugal devient possible l'année prochaine.
Estoril.
Peu importe, Portugal, Estoril, Lisbonne, Algarve, il y a plusieurs endroits à envisager.
Et Marrakech, tiens, c'est pas en Europe effectivement, mais je vois il y a le PCA aux Bahamas, tout ça, ce serait une possibilité?
Pas dans l'immédiat, je pense, Marrakech. Par contre, on regarde très attentivement ce qui se passe en Hollande d'un point de vue légal pour nous. Aujourd'hui, on peut pas, à cause de la loi sur le jeu en ligne, PokerStars n'a pas de licence en Hollande, mais le jour où on a une licence en Hollande, on va évidemment regarder pour faire un EPT à Amsterdam, qui est la destination que les joueurs de poker nous demandent le plus. Je vous laisse chacun deviner les raisons. C'est évidemment culturel, mais voilà.
Mais c'est, alors, on avait bien compris, hein, bien évidemment, Cédric, mais je pense et je me suis laissé entendre dire que éventuellement du côté de Namur, ville de Majorette, il pourrait y avoir un EPT.
Je ne pense pas. Je suis extrêmement ami avec nos amis de Namur qui d'ailleurs font tourner formidablement bien leur poker room, la plus dynamique de Belgique et de loin. Mais pour les raisons que je mentionnais plus tôt, en fait, la capacité hôtelière, la facilité d'accès, je ne pense pas que Namur soit dans nos plans immédiats pour l'EPT.
D'accord.
Cédric, prochaine séance de l'EPT, c'est...
C'est Monaco, fin avril.
Magnifique.
C'est Monaco, sous le soleil de Monaco, avec les Ferrari devant la porte, tous les joueurs de poker qui vont venir, avec le toit qui s'ouvre et les hamburgers un petit peu plus chers que prévu. Mais on a hâte de retrouver tout le monde sur place.
Vous n'avez pas la main mise sur le prix des bananes et tout ça? Bien évidemment, c'est... D'accord.
Bon, on a la main mise sur beaucoup de choses, mais pas les bananes.
D'accord, désolé. Ok.
C'est déjà ça. Cédric, rendez-vous est pris du coup sur le rocher du 24 avril au 4 mai prochain. Merci beaucoup d'avoir été
champion.
Avec vous. Et encore un grand bravo.
Merci à vous tous.
On se retrouve dans quelques instants en studio Moundir, Pierre Calamusa et Jacques Guigny. Jacques qui va pousser un coup de gueule. Oui, un coup de gueule. Vous l'entendrez. Restez avec nous.
Ça lui fait plaisir.
Jusqu'à 1h, c'est RMC Poker Show.
Jérémy Servin et Moundir.
De retour dans le RMC Poker Show, on est toujours avec Moundir, Pierre Calamusa et Jacques Guigny. On était avec Benjo et Cédric Bidou il y a quelques instants avec les toutes dernières infos en direct du Palais des Congrès. L'EPT, c'est fait. Jacques, c'est ton moment. On t'ouvre le micro. Bon, je ne veux pas dire coup de gueule, mais il y a quelque chose que tu as envie d'aborder. Juste pour remettre dans le contexte, on est à Marrakech au WSOP, c'était le mois dernier. Et qui on entend au petit-déj, qui n'est pas content du tout, cette personne en face de moi, Jacques Guigny, qui peste après les tournois rebuy illimités. On avait donc envie d'en parler aujourd'hui en studio et dans le RMC Poker Show. On t'écoute, Jacques.
Alors en fait, je voulais aborder ce sujet parce que je joue depuis un certain temps en tournoi. Ça fait depuis, je pense, 2008. Donc maintenant, ça fait plus de 15 ans. Mm-hmm. Et que j'ai vu, au fur et à mesure, évoluer le format des tournois de freeze-out. Mm-hmm. Alors à l'époque, il y avait du freeze-out et puis il y avait des tournois rebuy.
Ouais.
Donc on pouvait, pendant une certaine période, rebuy. On restait d'ailleurs au même siège. Et au bout des rebuy, on pouvait prendre une add-on qui était double. Et là, on commençait un freeze-out.
Il y avait un add-on, mais ça n'existe plus.
Pas du tout. Alors, il n'y avait donc pas du tout de tournoi entry, ça n'existait pas, et la majeure partie des tournois étaient freeze-out. Et c'était vrai pour le WPT, c'était vrai pour les EPT, c'était encore plus vrai pour les WSOP, où finalement aujourd'hui, je crois, à ma connaissance, qu'il y a un seul vrai tournoi freeze-out au WSOP. Pierre, je ne sais pas si je le dis, c'est le mail. C'est le mail. Qui d'ailleurs, pour beaucoup, est le plus beau tournoi du monde. Pourquoi? Parce qu'un tournoi, comme son nom l'indique, a priori, c'est un tournoi. Et quand on est éliminé de ce tournoi, on est éliminé.
Ouais.
Quand tu joues au tennis, quand tu fais de la boxe, quand tu joues au golf, tu n'as pas le droit de retaper ta balle.
Ouais.
Et c'est devenu systématique. Donc, en plus, ce dont on se rend compte, c'est que c'est un format qu'on a introduit, ça ne me gêne pas, mais qui s'est complètement généralisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus que du re-entry.
Ouais.
Et je trouve que ça change la nature du jeu, de tournoi, ou un peu comme tu connais Moundir, il faut survivre.
Mais bien sûr.
Il faut qu'il en reste un. Et quelque part, qu'un gars que tu élimines puisse revenir le lendemain et t'éliminer, et je trouve que ça perd un peu de l'essence du tournoi.
Mm.
Pour le gars qui se qualifie, finalement, quand il va se qualifier pour un 1005, ben, s'il n'a pas 1005 à rajouter, il perd un edge. En tous les cas, les pros et les sponsors vont avoir un edge sur lui parce que c'est beaucoup plus facile d'être agressif et de tenter de monter des jetons si tu sais que tu peux rien trier autant que tu veux. C'est une règle en plus qui est pas claire suivant les cercles, suivant les pays. C'est pas toujours la même règle. C'est un peu comme si au foot, au tennis, en fait, j'avais différentes règles suivant les stades ou les continents où je me trouvais. Ça crée aussi quelque chose que les bons joueurs qui ont moyen de re-entry ont souvent passé le D1 avec des jetons parce qu'ils vont jouer de façon plus agressive, de façon à monter rapidement des jetons et pouvoir jouer encore plus agressivement au D2. Et donc, tu vas souvent te retrouver finalement avec des fields de joueurs plus costauds, plus aguerris, puisque ils ont de la bankroll, ils peuvent le dépenser. Contre des... Je me mets à la place du gars qui gagne son ticket pour 1100 euros.
Ouais.
Faut bien comprendre une chose aujourd'hui. On est un peu déformé de les joueurs de poker à force de faire des tournois où on parle de sommes qui sont complètement faramineuses, etc. D'ailleurs, quand on voit l'envers du décor, ça, c'est un autre débat.
Ouais.
On se rend compte que bon, il y a beaucoup de gens qui sont au-dessus de leurs moyens, mais qui vivent au-dessus de leurs moyens dans ce jeu. Mais ça, c'est encore un autre débat. Le gars qui donc se qualifie sur Internet, il va prendre qu'il habite à Thonon ou que sais-je. Pour lui, un tournoi à 1500 balles, c'est le tournoi d'une vie.
Oui, bien évidemment.
C'est un gros bail. Alors, c'est vrai que quand on est Pierre Calamusa ou un sponsor, à 1000 euros, c'est un petit bail, entre guillemets. Mais pour le commun des mortels, 1000 euros, c'est beaucoup d'argent. Ce type-là, il va se qualifier. Il va traverser la France, il va engager des frais. Il va se retrouver face à lui des mecs qui sont plus forts que lui à la base. Et à qui, finalement, en donnant des réentries limitées sur l'ensemble des tournois ou des réentries chaque jour, on va leur donner en plus un aide supplémentaire.
Mais là, ta vision, c'est celle du joueur amateur dont tu parles justement, parce que Pierre Calamusa, Pierre par exemple, toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi qui es joueur pro, tu te régales avec ça justement face à ces joueurs amateurs.
Moi, par exemple, j'ai beaucoup souffert du fait qu'il n'y ait pas plus de re-entry sur le. Mais c'est deux visions différentes.
Donc, il prêche pour ma gouverne.
Mm-hmm.
Parce qu'il est en train de dire
non, mais pour
ce que je dénonce, c'est-à-dire que ça donne l'avantage à des gens comme Pierre.
Ouais, mais pas en tant que pro. J'entends juste que je voulais jouer parce que c'était difficile, parce que c'est vrai que parfois je me prenais soit un bad beat où tu perds un flip très vite, etc. Et après, en fait, ta journée est finie et c'est vrai que c'est un petit peu difficile.
Ouais, mais quand tu vois, je vais prendre l'exemple de Marrakech. Tu démarres avec 30 000 jetons.
Ouais.
Tu vois, les gars, ils ont 24 000. En fait, t'as l'impression qu'ils ont envie de perdre leurs jetons pour pouvoir.
Mais ça, c'est bien pour.
Oui, c'est bien et pas bien. Parce que c'est aussi comme ça que tu te retrouves dans des situations de jeu que tu n'aurais jamais eues si tu. En fait, tu vas prendre ton avion et puis tu vas avoir deux dames. À un moment donné, on va te mettre à tapis avec 300 blindes. Et en fait, t'as pas les moyens de reprendre. Le gars, il a pas les moyens de rien dire. Il fait quoi?
Non, mais c'est sûr.
Il joue pas le poker de la même façon. Au main event, qu'est-ce qui est magique? C'est que tu auras le chauffeur de taxi qui a gagné son ticket en passant par un satellite à $2, ou le gars à qui sa femme a offert ça pour ses 60 ans.
Qui sera au même niveau.
Et toute sa famille s'est cotisée et c'est le rêve d'une vie.
Mmh.
Il va tomber contre un milliardaire. Ben,
ils ont le même nombre de jetons.
Ils ont le même nombre de jetons.
Mmh.
Et il y aura une égalité totale au niveau financier. C'est ce qui fait la magie d'ailleurs. Et qui fait qu'on a des belles histoires. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur des formats. Je vois aussi le PT. Le niveau moyen des bains est quand même très élevé.
Mais il y a qu'à se le réentrer sur les PT.
Oui,
ça c'est pas mal.
Mais ça n'existait pas ça avant.
Du tout.
Oui, c'est ça. Il faut faire la différence entre rebuy illimité et un par jour. Ça te convient, Jacques?
Non, mais à l'époque,
les tournois étaient freeze out. Le PT était freeze out.
Ouais, mais un re-entry, je trouve que c'est plus que correct. Honnêtement, moi, je préfère avoir des beaux prize pools. J'ai rarement vu des amateurs vraiment souffrir sur un 1000 euros, sur un 500 euros. Ils étaient plutôt contents de pouvoir rebuy leurs 1000 euros si jamais ils avaient un bad beat, quoi.
Qu'on perdure avec la possibilité de faire des tournois à rien de prix. Bon, je suis pas opposé, mais aujourd'hui, en fait, il n'y a que ça.
Ouais, je suis d'accord que. Mais là, par exemple, ça t'a satisfait, par exemple, sur le FPS, le fait que, par exemple, il y ait deux entries le premier jour et qu'après, ça soit une par jour pour tout le monde.
Bah, déjà, je trouve ça plus cohérent qu'à Marrakech, où en fait, il y a un gars qui a rebuy 38 fois.
Ouais, bien sûr. C'est un délire.
Et puis, alors, Il y a une autre question que je me pose, et là, ça, on va dériver un peu sur le payout. Re-entry, ok. Et le premier payout, tu n'es même pas dans ton argent quand tu as re-entry qu'une fois.
Ouais, je suis d'accord.
Tu es un peu, franchement. Et tu,
moi,
fais 4, tu fais 400, mais... parce que bon, je vais pas, on n'en a pas parlé avec Cédric, mais c'est pas un problème de le péter. C'est une réalité sur beaucoup de circuits. 487 000 euros d'écart entre le premier et le deuxième, c'est-à-dire plus que la quatrième place.
Mais Jacques, pour en revenir au buy-in illimité, tu peux le voir aussi dans l'autre sens, où ce mec qui a charbonné pendant un an pour se payer un tournoi à 1000 euros, ça va faire augmenter énormément le prize pool et il va pouvoir gagner une somme qu'il n'aurait jamais pu gagner si ce tournoi avait été freeze out. Si ça se passe bien pour lui, je veux dire.
Oui, ça se passe bien pour lui. Mais le problème, si tu veux, c'est que le gars, il se pointe un tournoi à 1100 euros. Mais en réalité, si tu vas jouer ces tournois, tu as un désavantage si tu n'es pas capable de rebuy.
Non, mais dans le cadre de
Marrakech.
Dans le cadre de Marrakech.
Faut dire le coup, et Marrakech, c'est très spécial.
Non, mais dans le cadre de Marrakech, lorsqu'il y a un re-entrée limité, c'est parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, garantie. C'est qu'il n'y a pas de garantie. Quand tu prends le air-roller à 3000, il y a un air-roller à 3000. Quand Hassan Le Gambien, rebuy 38 fois parce qu'il flash. Je le connais pour l'avoir vécu au Sénégal et je l'ai vu aussi à l'œuvre à.
Moi, il m'en a niqué des buy-in.
Ah bah ouais, je sais que c'est un bête noir.
Il m'en a 3 dans le noir.
J'avais deux dames, As-Roi et As-8.
C'est un joueur.
En même temps, c'est un bonheur.
Je rejoins Jacques, pardonne-moi Jacques, mais je rejoins Jacques, c'est qu'à un moment, quand tu tapes 6 heures d'avion et que tu arrives et que tu fais un air-roller et que tu vois que le mec il flash, que je fold As-Dame parce que je dis non, j'ai pas
envie.
Ah bah ouais, j'ai pas envie, quoi. Le mec il m'envoie 300 bébés avec As-Dame, j'ai dit non, donc j'attends juste d'avoir Roi plus, quoi, tu vois.
Et comme on disait, on en parlait avec Laurent Polito une fois, on disait, Fred, même se faire mettre à tapis au premier niveau des WSOP avec deux As, c'est chiant.
Ah bah oui.
T'as quand même 20% de chance de te faire dégommer. Bon, ouais. Mais c'est le jeu de tournoi.
Je faux fold, je pense.
Et je suis désolé, mais ce côté re-entry fait que, qu'on le veuille ou pas, il y a des joueurs qui sont déjà plus forts et leur offrir leur cartouche, c'est leur donner quasiment la passeport pour le D2.
Ouais.
Et quelque part, toi, t'es là, tu te faufiles et t'es condamné à retrouver des joueurs qui ont bust et qui sont forcément plus forts techniquement que toi. Je parle pour le commun des amateurs. Et ce qui fait venir les amateurs au poker aussi, c'est justement de pouvoir rêver à accrocher ces types-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un peu un déséquilibre, dans la mesure surtout, c'est sur l'ensemble des tournois, je le répète. Et à part le main event à Vegas, c'est devenu maintenant monnaie courante, en fait, d'avoir des re-entries.
Ok, Jacques, on aura compris ton coup de gueule, magnifique, franchement.
Non, mais c'est un vrai débat,
mais on est tous assez d'accord là-dessus, sauf les joueurs pauvres. Enfin, il y a une vaste différence.
C'est pour ça qu'online, par exemple, c'est très rare qu'il y ait des re-entries limitées.
Ouais, c'est
plutôt un seul re-entry sur les tournois quotidiens de 150 euros. C'est pour éviter que t'as les mecs qui parpinent 25 entrées et que le mec qui est amateur au milieu, il se fasse désosser direct, quoi.
Donc, du coup, le FPS ou le PT, on pouvait le jouer
6 ou 7 fois. Ouais. Moi, j'ai joué 6 fois.
Ouais. Enfin,
ah bon,
tu
vois.
Bon, Jacques, d'ailleurs, tu l'as joué le FPS, t'en es où, toi?
Ouais, j'en suis que. Bah,
tu joues beaucoup en ce moment?
Non, je joue pas beaucoup parce que je me suis fait opérer du dos il y a un mois, juste après Marrakech.
Ouais.
Donc là, j'ai joué juste le FPS parce que j'ai un petit challenge. C'est-à-dire que je suis. Alors, c'est un tout petit record, mais je suis recordman des places payées. C'est un peu un record en carton, mais bon.
Non, mais c'est normal.
Et avec, j'avais 9 places payées, et Brécard en avait 8, donc on se tire un peu la bourre.
You.
Ouais. On se tire un peu la bourre, et puis en croisant Cédric Bio, donc à Prague, où j'avais fait l'argent dans le Rica, j'avais dit quand même, c'est bizarre que PS PokerStar n'ait jamais proposé quoi que ce soit, alors que je suis recordman des places payées. Il me dit, qu'est-ce que ça tient à ton 10e ITM, je t'offre le suivant.
Bon.
Donc, je suis allé à Paris uniquement. J'ai fait que ce tournoi.
C'est vrai que moi, j'ai fait 0 ITM, si tu peux me souvenir le suivant.
J'avais 6100 jetons à la première pause.
Oh putain,
je suis accroché comme une moule à son rocher. Je voulais absolument d'abord distancer You, qui n'a pas fait l'argent.
Ouais, magnifique.
Et gagner ce ticket.
Et
j'ai gagné ce ticket, donc je serai en frérot à Monaco. Enfin, pas tout à fait, parce que j'ai réservé l'hôtel et déjà, ça me coûte beaucoup.
Ah, tu fais à Monaco. C'est bien, déjà. Jacques, je veux revenir à juste quelque chose. Il y a 2-3 ans, tu as eu un accident de la circulation, un truc terrible.
Ouais.
Est-ce que le poker t'a aidé dans ta convalescence?
Le milieu du poker.
Tu as arrêté de jouer le milieu du poker?
Bah, j'ai arrêté de jouer, oui. En fait, c'est pas mal tombé, puisque c'était en pleine pandémie.
Mm-hmm.
Donc, moi, j'ai eu mon accident, pour vous situer, juste avant le WPT qui a gagné Sony Franco au Palais des Congrès. Hein,
parce que c'est vrai.
C'était le dernier.
Donc, c'était avec janvier 2020.
Putain.
Et après, il y a eu la pandémie.
Ça paraît si loin.
Ouais. Donc, du coup, en France, j'ai beaucoup de gens du poker qui sont manifestés, évidemment. C'est une grosse communauté. Ouais, j'étais, J'ai des visites. Anthony Lelouch, par exemple, qui était venu.
Anthony Lelouch, qui est de retour à Paris. Hein.
Que j'ai vu là, je le salue d'ailleurs. Ouais. Qui est à Paris.
On l'a vu au club Pierre Charon. Bon, il est temps de passer Moundir au crible. On va le mettre en garde à vue, messieurs.
Il a survécu sur une île déserte. Il a vaincu le Covid. Il a résisté à Dominique Nitsch. Viendra-t-il à bout des enquêteurs du RMC Poker Show ? C'est la garde à vue de Moundir.
Moon, t'as deux petites minutes pour me trouver la table de poker de tes rêves. T'imagines que t'es assis à une table de Six Max, allez, avec quoi, 10 000 dollars devant toi en cash game. Qui t'invite à cette table ? Que des fiches ou quand même des amis ? C'est quoi ? La table de rêve ?
Ah non, non. Le rêve, c'est quand t'empoches. Alors, j'appelle Benjamin Castaldi parce que je sais que plein de 75-150, il va tout envoyer. Ouais. Je mettrai Nico Saliagas, Mathieu Delormeau, Jean-Michel Maire, parce que Jean-Michel Maire.
Il n'y a aucun joueur de poker.
Non, non.
T'invites Carl Chapégas,
alors, bien évidemment, j'invite Pierre Calamusa, comme ça, il m'en sort 3 ou 4, tu vois. Et pour le kiff, un petit Jackie Guigny. Voilà, un petit Jackie Guigny. On a besoin d'un John McEnroe sur une table, bien évidemment.
Exactement.
Voilà, et ça serait ma table de rêve.
Bien. Alex Amiel qui parle de toi, effectivement, qui dit que tu as un John McEnroe à table.
C'est
John
McEnroe à table. Je suis quand même déçu que les gens ne notent pas mon assagissement.
Ouais.
Depuis quand même un certain temps.
Non, tu vas pas faire comme Franck Calfon.
Ça,
qui dit, on colle une étiquette, c'est ce que j'ai dit finalement.
Ah,
mais attends, c'est impossible. Tu peux pas dire ça parce que Franck Calfon, que j'embrasse,
Daniel Riolo l'embrasse.
Attends, mais c'est moi, est-ce qu'il a perdu le pari, il me doit 1000 balles. Bref, en gros, c'est quoi? C'est que Franck est aussi un nerveux à table quand il prend un bad beat ou machin. Et il y a une célèbre vidéo qui passe où quand
il balance sa coche. Ouais.
Et un jour, il me dit, ça y est, je me suis mis au yoga. Ça y est, j'ai décidé.
Je n'aimerai plus jamais.
Bon, bah, bizarrement, je vois une story où le mec pète un plomb, tu vois. Donc, je me dis, c'est pas possible, toi, Jacques, ça, c'est quand même ce qui te caractérise quand même.
Mais,
quand tu prends un gros coup, oui, papa, yes, papa. Ben,
j'ai travaillé là-dessus. Et franchement, je pense que ça me réussit pas du tout. Non, ça marchait beaucoup mieux avant.
T'as quand même le moment légendaire, tu sais, toutes ces vidéos à l'EPT Deauville, etc., qui sont folles.
Bien sûr.
Folles, et c'est
à la bulle, là.
Ouais, mais pas que à la bulle, ça illustrait un peu une époque où c'était moins codifié, c'était plus cool, où c'était plus un peu un poker de film, quoi, un peu un poker de
aujourd'hui, western. Tu fais ça, tu prends un tour de pénalité. Quoi,
tu prends 10 tours de pénalité, il y a 4 étrangers qui te disent ferme ta gueule, tu parles en anglais.
Enfin, ah oui, aussi, dire, c'est ça. Ouais.
Ah ben là, c'était terrible. Il y en avait même des croupiers, à un moment donné. Moi, j'ai jamais de problème en général avec les croupiers, mais le gars voulait qu'on parle en anglais en dehors des coups. J'ai dit, attends. Et puis, il y a des types qui ne parlent pas anglais en France. Donc, ils étaient ultra handicapés à la table. Et le mec à côté de moi, il a marché. Il dit, ouais, moi, je ne sais pas parler anglais.
Pierre, est-ce que tu connais l'histoire? Je viens d'y penser un instant, mais je repense à ça. C'était à Marrakech. C'est extraordinaire. Daniel Riolo qui arrive au petit-déj le matin et qui nous dit. Putain, il y a un connard, toute l'année, il a chanté « Tu ne m'as pas laissé le temps ».
C'est vrai.
Et pendant 3 jours d'année, il l'a eu dans la tête, il nous l'a dit, il nous l'a envoyé et tout, machin. Mais je te jure, là, au WSOP, tu vois, au Palace.
Les chambres sont mal insonorisées.
Ah ouais.
On arrive au petit-déj le matin, on est au bord de la piscine et tout. Et Daniel qui...
Il arrive avec des cernes.
Daniel, sa note arrive, donc il signe, tac, 21-08. Jacques Guigny qui est là à côté. Oh, bah, t'es mon voisin! C'est toi!
Il a pas arrêté avec ça!
Oh putain, incroyable!
Ah, c'est David Hallyday, j'aime bien!
Ouais, t'es fan?
Bon, mais je trouve qu'il y a d'autres. Ouais, moi, je suis très éclectique en matière musicale. Donc, ouais, il y a deux, trois chansons que j'aime bien, 100%. Tu m'as pas laissé le temps, voilà.
Magnifique.
J'assume.
Non, mais c'est bien.
Ah, c'était très très drôle. Bon les amis, on va mettre un petit terme à cette deuxième partie. On revient dans quelques instants. Voilà, on va jouer, on va tester Moundir et Jacques, voir qu'ils sont pas trop rouillés. Et j'espère que vous êtes chauds. À tout de suite.
Ah.
Jusqu'à 1h, c'est RMC Poker Show.
Jérémy Servin et Moundir.
De retour dans le RMC Poker Show, on est avec les amis Moundir et Pierre Calamusa. Jacques Guigny nous accompagne également en studio. Jacques, avant qu'on joue, une rubrique qu'on avait oubliée depuis longtemps, c'est le coup d'une vie. C'est parti, jingle.
Chaque dimanche dans le RMC Poker Show,
c'est le coup d'une vie.
Pierre Castor, raconte-nous une histoire, une anecdote de jeu, de roulette, n'importe quoi, tes ébats avec Doyle Bronson, on veut tout savoir. Un truc marrant, enfin un truc fou quoi. Je t'écoute, Jacques.
Ah, pardon, c'était moi. Bon, en fait, je vais parler juste d'un tournoi où j'ai eu quelque chose d'assez improbable. C'était le BPT en gain 2013.
Que tu avais gagné.
Que j'avais gagné. Donc, c'était à 1500. On était environ 200 joueurs. Il y avait vraiment, bon, là, pour le coup, tous les bons joueurs français. Ouais. Il y avait, à l'époque, donc, une dizaine de packages. Et puis, de l'argent en Rudica.
Pour aller jouer le main event à 10 000.
Pour le main event à 10 000, qui se déroulait
à Anguin.
Et que j'avais la chance de jouer en tombant sur une table de fou, puisque j'ai eu Phil Ivey, Guillaume Darcourt, John Jordan, Daniel Negreanu, enfin une table de malade.
Et la table de tes rêves.
Tu vas te sentir tout petit là-dedans.
Ouais, j'ai fait le D2 quand même, et je me suis pris une horreur sur le D2, mais bon. Et donc, on attaque le D2. Bon, déjà, j'avais eu un coup assez improbable en fin de D1, où c'était parti à tapis 3-way pré-flop, As-Dame. Chez Michel Drey, deux dames chez Gloop, deux haché, moi.
Ah, Michel Drey.
Pas mal, ouais.
Incroyable.
Et puis le D2, je suis arrivé, donc j'avais un bon stack. Et genre, troisième main, je flop carré. Enfin, non, je fais un carré à la river contre Flush Max.
Ah ouais, pas mal, tu prends encore un jetons. Poignet, quoi.
Donc là, je me retrouve chip leader du tournoi. Et puis les choses se passent bien. Et puis en table finale, à 5 left, j'ouvre paire de 5. Donc dans un three way putt. Et là, le flop fait 5-5 rois.
Oh putain, là, mais c'est pas ça.
C'est vie.
Ce carré,
c'est vie. Les gonds, c'est vie.
Carré flopé. Bon, pour la petite histoire, les trois joueurs étaient présents, donc j'ai évidemment checké. Il y a eu une mise payée. À la turn, un des joueurs a dégagé. Et à la river, en fait, j'ai tout mis. J'étais payé par un type qui avait deux as.
Oh, putain,
et j'ai gagné le tournoi. Donc, ça a été effectivement.
Des émotions de ouf sur le jeu.
Et puis en table finale, c'est simple, dans le pot, il y avait plus que dans le stack de tous les autres jeux.
Ah ouais, tu les as écrasés.
Donc celui-là, en fait, je suis content parce que deux carrés dans un tournoi, c'est improbable.
Ah bah oui.
Et j'aurais eu les boules de ne pas le gagner quand même.
Ouais. Oh là.
Surtout avec un carré en table finale.
Mais combien la win? 30
Plus, puisque, enfin oui, l'équivalent de 45, puisqu'il y avait un package à 12 et en 13, plus l'hôtel. Et puis j'ai une seconde anecdote quand même qui est très drôle, puisque celle concerne Pierre Calamusa.
Ah, ça se souvient encore.
Puisque Pierre, je l'ai rencontré il y a très longtemps, ça devait être en 2008 ou 2009 à l'aviation. Oh. On jouait un satellite pour un 5000 euros.
Ah, c'était plus tard quand même.
Tu t'en rappelles?
En 2010, on jouait un satellite pour l'EFAP Diamond.
À 5 ou 10 000
Peut-être 10 000.
Pour les 10 000.
10 000.
Pour les
10 000. 10 000. Et en fait, moi, je suis hyper short. Il y a 8 tickets, dans 7 tickets, et on est 9. C'est table finale. Je suis assez short, et finalement, il y a un type qui se chauffe avec un autre type qui a brelan, l'autre a tiré H4 par les deux bouts, donc il y a un type qui avait son ticket, qui aurait dû l'avoir, qui s'est chauffé, qui a bust. Et la main d'après, le type qui est à côté de moi, qui a le seul, on est short tous les deux, pousse sa boîte, j'ouvre deux dames, je chauffe aussi. Et là, Pierre, qui était énorme, est au bouton.
Ouais. Moi, j'ai 100 blindes, ils ont eu 6 blindes et 6 blindes.
Donc, chez lui, il commence à réfléchir. Je le connais pas. Et là, je me lève, je dis, écoute-moi, à quoi tu réfléchis? Je lui dis, oui, je sais pas. Si
t'es rentré dans son cerveau.
Si je vais coller, pas coller, je lui dis, écoute, t'es gentil.
T'es gentil.
Donc, es-tu là? Tu vas nous laisser nous démerder tous les deux. Sois gentil, foule ta main.
Ouais. J'avais un as-merde.
Il avait un as-merde, il a foldé sa main, les mecs avaient deux valets. J'avais deux dames, ça fait l'as au flop.
Et comme il avait moins que l'autre.
Donc, du coup, l'autre s'est retrouvé, j'ai eu le ticket. J'arrive à la caisse pour prendre le ticket, là, quelqu'un me tape sur l'épaule.
Il me demande 500 balles.
Un petit gamin, un petit nouage de 20 ans. Et il me dit, écoute, j'ai beaucoup aimé comment t'as fait. Est-ce que je peux t'acheter des parts dans ton tournoi?
Non!
Oui! Ouais. Il m'a donné 500 balles pour avoir 5% dans mon tournoi. Ouais. L'histoire, elle est véridique. Ouais. C'est comme ça que j'ai rencontré Pierre Calamusa.
Et il t'a fait gagner de l'argent après?
Non. Non, mais c'était mon premier temps en live, 10 000.
J'ai fait la bulle, moi.
Incroyable.
J'ai fait la bulle.
Troisième pour 70 000, ouais. Et c'est ça.
J'ai fait la bulle.
C'était incroyable et c'était la belle époque de la CF où ça. C'était
incroyable.
Génial cette histoire.
Ça te manque ça, cette époque-là?
Oui et non. Parce que c'était quand même un peu la foire d'un point de vue, d'un point de vue sécurité même, où les cercles c'était quelque chose à l'époque, hein, quand même. C'était n'importe quoi. Maintenant j'aime le fait que ce soit quand même plus réglementé, que
plus carré,
plus de sécurité, etc. À l'époque c'était beaucoup. Tu sentais que c'était un milieu mafieux complet. Ouais. Alors que maintenant
ça se règle au fusil à pompe.
Ouais voilà. Maintenant,
et puis les années ont eu un effet très très bénéfique sur Pierre. Hein. Regardez comme il est beau.
Franchement c'est vrai. Hein. Non mais même t'as rien à voir.
Mais par contre ce côté poker de film dont on parlait, ce côté hyper romantique aussi, on arrivait, on avait 200 000 balles dans le cash, en jeton.
C'était moins romantique quand ça a fermé pour les mecs qui avaient 200 000 balles.
Parce qu'ils ont tout perdu. Ils ont même pas récupéré.
Rien, zéro.
À l'époque, même, des gens revendaient les jetons de la CF et tu pouvais gamble sur le fait que ça réouvre. Ils disaient, j'ai un jeton de 5 000, je suis vraiment 1000.
Alors, il paraît qu'ils ont une valeur quand même, parce que justement, c'est devenu des pièces.
Ouais, mais c'est bon, ça vaut 50 balles, quoi.
Pierre, t'as un coup d'une vie à nous raconter, Pierre?
Sur ce 10 000, justement, c'était l'époque, la belle époque du poker, on faisait un peu tous n'importe quoi. Open au cut-off, on partait avec 300 blindes, je crois, un truc comme ça, 500 sur 30 000. Open 300 de Basilea-ish au cut-off, je call au roi 10 dépareillé. Et là, squeeze à genre 2500 d'un Allemand en small blind, qui s'appelait Winka, qui parlait français aussi. Passe, je paye avec mon roi 10, ça vient dame de 3. Il mise, je paye, turn as, il mise. Et là, je sais pas ce qui s'est passé à ma tête, j'ai recollé en me disant qu'il a rien. Rivière, je me souviens toujours. Valet.
Non, enfin, c'est incroyable ce que t'as fait. C'est quoi ça?
Pote et moi tapis. Et je me souviens, il parlait français avec un 16 d'accent. Il fait, tu m'as pas fait roi 10 quand même.
Alors ça, c'est plutôt
payé.
C'est
deux dames.
C'est plutôt un belge. Hein.
Oh, il avait sur dame de 3.
Tu m'as pas fait roi 10.
Ils sont à 3 blindes.
Mais qu'est-ce qui t'a pris de payer?
C'était lecture de sabot. Il y a 20 ans.
Lecture de sabot.
C'était 2010, je crois.
Ouais, ouais.
Un truc de ouf. Tu m'as pas fait roi 10.
Tu m'as fait roi 10 quand même.
Oui, 2010, je pense.
Et là, bim. Et je passe énorme. Pour la petite anecdote, il est remonté avec ce stack.
Non.
Il a gagné le tournoi.
Non.
J'ai fait troisième et deuxième, c'était UALP, un Finlandais.
Ah, UALP, bien sûr.
Mais lui, il joue toujours, je crois.
Il joue toujours, ouais. Il est plein d'actes. C'était Jonathan Duhamel qui avait fait la bulle, je m'en souviens. C'était des émotions incroyables.
Voilà.
Wow. Eh ben, merci beaucoup, les amis, pour ces deux belles anecdotes. Il est temps de jouer désormais dans la tête d'un fiche. C'est maintenant.
RMC Poker Show.
Dans la tête d'un fiche.
Les amis, partie privée ce soir. Il y a beaucoup de nos auditeurs qui font ça le week-end. On s'est dit qu'on allait faire pareil. On est chez des amis, une petite bière à la main. Partie à 50 balles, 6 joueurs à table. On est chip leader avec 10 000 jetons, les blindes 150-300, ce qui doit nous faire 33 blindes. On fait face à une relance à 800 du cut-off, qui est un tapis de 8 000 jetons. Bouton et petite blinde se couchent et nous, on ouvre paire de 4. Loire-Atlantique, 44. 4 de cœur, 4 de carreau. Qu'est-ce qu'on fait dans ce spot? En grosse blinde, relance au cut-off.
En grosse blinde, on est ?
Non, on est en grosse blinde. Relance au cut-off à 800. Il est deuxième en jeton. Nous, on est premier en jeton.
Il a combien ?
Et on ouvre paire de 4. Il a 8000, nous, on a 10000.
C'est un flat.
Ouais.
C'est juste un call chez Moon ?
Bah, moi aussi.
Jacques ?
Ah oui. Ouais.
Ouais, tu t'enflammes pas, Pierre ?
Non.
Ça va être très facile. 100% tapis. Une main qui joue pas bien post-flop.
100% tapis, c'est
vrai. Il a moins de 20 blindes. Il a 20 blindes.
Ouais.
100% tapis. C'est une main qui joue pas bien post-flop. C'est une main qui tient bien contre la range de call, c'est-à-dire ça va être souvent As-Roi, As-Dame, As-Valet sortie qui vont nous payer. Donc ouais, pas de problème. On a une tonne de fold equity. Il peut avoir Roi-Valet, Roi-10, Dame-9 pareillé, tout ça, toutes ces mains vont folder. Il y a déjà 2000 au pot et quelques, donc ouais, fait, décision très facile, ça doit être tout le temps tapis là.
Bon, vous vous détournez bien que c'est pas ce qu'on a fait.
Ouais,
on a
tapis, opté pour
un... Et ben voilà, c'est terminé, bonne soirée. On a opté pour un simple call. Le flop vient 6 de trèfle, 4 de trèfle, As de pique.
Voilà.
Je vous écoute, c'est à vous de parler.
Moi, je fais
le pot, il fait 1600.
Je fais chiche kebab, c'est-à-dire que je fais un petit check, un check à la Jackie.
Et Jacques?
Ah, je check.
Redis le flop.
C'est trop tentant.
6 de trèfle, 4 de trèfle, as de pique. On a fait bon.
Ouais, c'est ça, on est obligé de checker, on check tout au range.
Tous les jours, on check, c'est impossible de donc bet.
Non, impossible. Là, c'est loin de Jérémy qui
l'a. Non, je ne l'ai pas joué. Non, mais je me demande.
Non, surtout pas. Là, c'est soit check call, soit check raise, mais les boards haut de race, quand on n'est pas l'open raiser, quand on n'est pas celui qui a l'initiative, on ne peut pas avoir As-Roi, on ne peut pas avoir As-Dame, on ne peut pas avoir Brelandas, etc. C'est toujours un check. Et on voit ce qu'on fait après.
Magnifique ce genre de board. Bon, on a checké évidemment. Le cut-off avance 1200 dans 1600. Moundir, qu'est-ce qu'on fait?
Je suis pas bête, je fais gonfler le pot dessus.
Ah, on lui revient dessus tout de suite.
Je reviens tout de suite.
Ok, ouais, d'accord.
Ouais.
Jacques.
Ouais.
Moi, je fais gonfler le pot.
Et on fait combien? Il a fait 1200 dans 1600, on fait combien nous?
Je fais un petit 4002.
Ouais,
d'accord. Je fais 4002. Moi, j'aurais call gentiment.
3000, tu fais? Je fais 4002.
Ok. Pierre?
Là, alors tout, faites n'importe quoi sauf folder, s'il vous plaît. contre un joueur qui est particulièrement agressif et dont vous soupçonnez qu'il pourrait avoir vraiment rien du tout payé justement,
oui.
Parce qu'il va avoir un truc genre valet 10 de pique et on veut lui laisser l'agression. Si vous pensez que c'est un joueur qui a tout le temps As-Roi As-Dame, envoyez-lui comme Mounir 4000 parce que vous faites le grossir le pot tout de suite et vous laissez pas un 3 de trèfle tuer l'action ensuite ou un truc comme ça, un 8 de trèfle, okay. Lui faire peur ensuite. Donc voilà, c'est vraiment selon le profil adverse.
Bon, le profil adverse, en l'occurrence, il est assez actif. On a juste payé, le pot fait 4000, le turn 10 de trèfle, troisième trèfle sur le board. Est-ce qu'on check de nouveau dans cette position après qu'on ait payé turn? Check chez Moundir. Jacques?
Bah ouais.
T'es pas emballé, hein?
Le trèfle n'est pas
emballé. Ah non, j'aime pas cette carte, mais je vais checker, ouais.
Pierre?
Alors, on va pas aimer cette carte parce qu'elle fait rentrer de la flush. Ouais. C'est plus par souci que ça peut lui faire peur s'il a un truc genre As-Roi. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a très peu de couleurs possibles. Et s'il a couleur, de toute façon, bon appétit et 20 blind deep, c'est pas très grave. Le truc, c'est qu'on peut éventuellement reprendre l'initiative, surtout contre les joueurs les plus frilés, parce qu'ils vont checker tout le temps As-Roi, As-Dame, si jamais nous-mêmes, on nous checkons. Donc, on a envie de faire grossir le pot. Voilà, là, c'est pas spécialement une carte qui nous fait peur. C'est plutôt, ce qui nous fait peur, c'est que ça nous tue l'action face à As-Roi, As-Dame, quoi.
On a check ce turn et notre adversaire a continué son agression. Il a fait 1500 dans 4000. Mundir, je t'écoute. Ce trèfle change la donne quand même. Est-ce que c'est compliqué de lui revenir dessus ou pas?
Je vais poser la question, bien évidemment. Je vais lui revenir dessus, je vais faire 5002.
Mais bon, c'est tapis. Ça, ouais, c'est ça. C'est quasiment tapis en fait. Ouais, on a 10 000 de jetons.
Je me commit, donc de toute façon, il fait tapis, je colle. Quoi.
Donc, voilà. Donc il fait 1500, tu fais 5002.
Ouais.
Ok, Jacques.
Ouais. Je fais comme vous le dire, moi. Je fais tout comme vous le dire.
Oh là là, le poker.
Non, mais oui, combien il me reste, de toute façon.
Pas grand chose, comme dit Mundir, t'es quasiment commis. T'as...
Ouais, bon, de toute façon, c'est 5002 au tapis, c'est pareil, là, j'ai envie de te dire. Bon, voilà, okay. Bon, on y va, quoi. De toute façon, j'ai Brelan et je peux l'améliorer. Donc.
Ouais, pareil que.
T'attends la doublette.
Bah non, peut-être pas. Ça, bon, Brelan, il gagne déjà peut-être. Hein.
Ah ouais, non, pareil que Mundir et
Jacques. Flush.
Pareil que Mundir et Jacques. Pourquoi est-ce qu'on le mettrait? Non, c'est plus, on veut tout mettre contre As-Roi, ou As-Dame, avec un trèfle, des choses comme ça, contre lesquelles on est très bien. Voilà, notre adversaire qui peut avoir toutes ces mains-là. Donc là,
on va jamais give up.
Simplement, le truc, c'est la seule et unique cas où vous pourriez éventuellement, c'est vraiment un fou qui joue toutes les mains. Et à la limite, vous check-collez sur toutes les rivers. C'est-à-dire qu'il peut toujours avoir Valet 9 de pique qui va bluffer sur un quatrième trèfle, des choses comme ça. Donc, soit l'un, soit l'autre. Mais là, de toute façon, on y est sans problème. Et le mieux, c'est de check-raise all-in. Essayer de protéger un petit peu contre une main un peu perdue. Je sais pas, Roi-Valet avec un trèfle qui miserait, qui pourrait peut-être folder, des choses comme ça. Mais oui, on y va.
Eh ben, nous, on a pas check-raise all-in. On a just call. Le pot fait 7000, river 5 de cœur.
4, 5, 6, 7, c'est ça?
4, 6. Non, c'est un 10 au turn.
10 au turn.
Ouais.
4,
6, 4, 6, 6 as. 4, 6, as, 10, 5. Bah, à moins d'avoir 3 et 7. Okay. Ouais, ou 7 et 8.
On ne change rien. Hein.
Qu'est-ce que ça fait River, Moon?
Qu'est-ce que ça fait Rivière? C'est les canons de Navarone, frérot. Ça envoie direct. Hein. Ça direct hein.
Ah, tu pousses tout River?
Ouais, bien sûr, je pousse.
Donc, donc tapis. Ah ouais. Jack?
Bah, j'irai tout pousser à la terre.
Ouais. Ah ouais,
j'ai plus de jetons.
Pierrot?
Je crois que ça n'a pas trop de sens de reprendre le lead.
Mais c'est ça, ouais.
Plutôt check call all-in, et voilà.
Ok.
Ça sera aussi des questions de garder des mains fortes dans son éventail de mains adverses pour ne pas se faire non plus trop martyriser. Parce que ça veut dire, en fait, c'est si jamais on commence à faire tapis avec toutes nos fortes mains à la rivière sans avoir l'initiative. Bah, dès qu'on check, ça veut dire qu'on a maximum As-2 ou un truc comme ça. Donc,
De toute façon, lui, il avait 8000. Il a déjà 8500 et 1500, plus il a quasiment.
Ah ouais, rien. C'est pas grand-chose.
Non, mais 2000, et si c'est un bon adversaire, il devrait continuer à faire tapis avec As-Roi, As-Dame, en étant sur un truc genre As-9, As-8, des choses comme ça.
Il a mis les deux tiers de son tapis déjà.
Eh ben, on a décidé de check. Et lui a check également. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a comme
deux as
de main?
Il a eu peur.
Deux as.
Tu penses qu'il a deux as?
Il a eu peur.
Jacques?
Deux paires, je pense.
6, 4 as.
6, 4 as, 10 de trèfle,
deux paires,
la flush,
deux
et 5 de cœur.
Il a deux paires.
Il a deux paires chez Mundir. Deux as. Roland as.
Et il fait.
Chez Pierre. Jacques, pas d'idée?
Un as.
Ouais, c'est le plus probable.
Il a 2-6.
Roland supérieur.
Et c'est Christophe Planet. C'est marrant, encore un même. Ils ont pas su. C'est étonnant quand même.
C'est un truc de fou.
Elle a été bien jouée, mal jouée cette main.
De fou.
Ça aurait dû se jouer avant, non? Ça aurait dû se jouer au turn.
Non, ça aurait dû jouer pré-flop.
Ah, tapis même pré-flop? Oui, oui, parce que toi, t'aurais fait tapis déjà. Ouais.
Tapis de 4 et call de 6. Et voilà. Bonne chance à tous.
Et t'as pas mal à la tête comme ça.
Ouais, c'est vrai. Quel bon, Pierre, ton prochain tournoi, c'est quoi? Tu pars quand?
Alors, le WIPT, évidemment.
Évidemment.
Dans deux semaines, on va lancer tout ça vendredi. Enfin, bon, moi, j'arrive vendredi, pardon.
Final.
Ouais.
Final, oui,
ouais. Où je ferai une masterclass avec Julien Sidbon et Alexane.
Ah, génial.
Lachos.
Le vendredi ou le samedi?
Le samedi et le dimanche. Puisqu'on aura encore des possibilités de qualification.
Ah oui, samedi dimanche, c'est le tournoi de la dernière chance,
voilà,
pour effectivement.
Ouais. Avec les tickets gratuits, comme d'habitude. Qualification online, je ne sais pas si elles sont finies ou
c'est
pas.
C'est à la Villette?
Et ensuite,
c'est à la Villette?
Non, c'est
pas les portes de Versailles.
C'est portes de Versailles, ouais.
C'est portes de Versailles.
C'est là où il y a le salon.
Ah d'accord, non, mais
ça va sentir la vache. C'est là où il y a le salon d'agriculture.
C'est la finale, il y a 1 million garanti pour le menu.
Surtout, il y aura des tournois à 2500, des tournois à 1000, la finale à 500, évidemment.
Des KO tous les jours et tout, il y en a toutes les bourses.
incroyable. Et en plus, voilà, Mathieu, on sait que Mathieu Durand et ses équipes ont bossé super dur et franchement, ça va être fou. Et du coup, ça va faire des tournois fous et j'espère qu'on pourra s'affronter Mundir.
Oh, c'est pas le meilleur ambassadeur de Winamax, Pierre Calamusa, franchement. Jacques, qu'est-ce que tu y seras?
Non, malheureusement, j'y serai pas parce que je pars quelques jours en vacances, là, lundi prochain pour une semaine, au soleil. Je crois qu'il y a un double.
C'est bon.
Il y a un double
c'est dans 15 jours.
Non, je peux pas. J'ai vu que les dates, tu pouvais pas. Je crois qu'il y a un WPT à Paris, non? Au mois de.
Non. À Paris, non? Non, il y a les WSOP qui arrivent à Jean-Bouin en mai.
À Vegas. Prochaine destination, Monaco.
Monaco, prochaine destination. Ouais. Ok, les amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce RMC Poker Show. N'oubliez pas le podcast dès demain matin. Et la semaine prochaine, on se retrouve comme d'habitude avec Mundir. Ce sera Daniel Riolo, évidemment.
Eh oui, avec ses brochettes.
Ciao, les amis.
Jusqu'à une heure.
C'est le RMC Poker Show.